Voilà, nous sommes à Sichem, qui se trouve un peu au nord de Jérusalem, presque à la limite de la Samarie, côté Samarie et de la Judée. Et là, Josué passe alliance avec Dieu, entre le peuple et Dieu. Et donc, c'est un texte extrêmement important puisque on vient d'entrer dans la Palestine. La conquête de la Palestine a été faite par Josué. Donc, les choses entrent dans l'ordre et on va avoir une nouvelle phase de l'histoire du peuple des Hébreux. Donc, c'est un moment clé. Et c'est un texte qui est très, très important, qui évidemment est moins connu parce qu'il n'a pas l'éclat de la sortie d'Égypte, évidemment. Mais il n'en est pas moins fondamental. Alors voici un extrait de ce passage au chapitre 24 du livre de Josué, les versets 14 et suivants. Maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Écartez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez le Seigneur. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux qu'ont servi vos pères lorsqu'ils étaient au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, quelle abomination ce serait pour nous d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, car c'est le Seigneur qui est notre Dieu, lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà, je voulais vous accueillir avec ce texte de Josué, du chapitre 24. Donc nous sommes à Sichem et Josué renouvelle l'alliance avec Dieu. Et on est juste avant sa mort, finalement, c'est un peu son testament qui est là, et au moment où va débuter l'aventure des Hébreux en Palestine avec l'histoire des juges. Et Josué affirme avoir choisi Dieu. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc il y a cette parole qui est assez forte, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Deutéronome, du reste, c'est une sorte de refrain qui revient régulièrement. C'est avec ces mots que je vous accueille aujourd'hui, en espérant que vous avez choisi Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance avec le Dieu révélé par les prophètes, hein, et révélé en Jésus-Christ. Et le peuple hébreu en a vécu et nous l'a transmise, cette alliance. Dieu s'est révélé dans sa fidélité, sa justice et sa compassion, ce que la nouvelle alliance nomme l'amour au final. Alors que nos partages, que nos écoutes, que nos prières soient marquées par ces alliances, tout renouveler pour que le monde puisse vivre d'espérance, de joie, de respect et de dignité. Toutes et tous, avec vos richesses spirituelles, vos expériences, vos savoirs mis ici en commun, soyez les bienvenus pour ce moment de culte. Vous êtes en esprit une expression du royaume et de la promesse. Amen. Et je vous invite, avant de partager un peu plus de Bible ensemble, les textes qui nous serviront de base pour la prédication, je vous invite à avoir un moment de prière. Voilà, Père, nous sommes réunis d'horizons divers, parfois lointains, mais nous sommes unis par le même esprit, la même joie d'être ensemble. Finalement, peut-être avec les mêmes questions et les mêmes certitudes à partager, mais nous sommes réunis pour vivre d'un essentiel, un essentiel qui a souvent été oublié, bafoué dans nos sociétés. C'est ta parole, cette parole d'espérance, une parole d'amour, une parole qui donne du sens finalement. Et nous cherchons à en vivre les uns et les autres. Alors, au moment de partager cette parole, Père, nous te prions, afin que par ton esprit, nous puissions la vivre en plénitude. Elle nous échappe souvent, elle est parfois compliquée, mais elle est toujours vivante, toujours à renouveler, à réactualiser. Et elle s'adresse toujours au cœur des humains pour qu'ils puissent vivre dans la joie et l'espérance. Merci Père pour ta parole. Amen. Et je vous invite à entendre trois textes aujourd'hui. Trois textes. Le premier dans l'évangile de Marc et au chapitre 6, les versets 1 à 10. Jésus partit de là, il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans une synagogue. Et frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Mais il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains et ils s'étonnaient de ce qu'ils ne croyaient pas. Et puis toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 30. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je, au dire des hommes ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui dit « Tu es le Christ. » Et il leur demanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Et enfin, un texte que vous connaissez bien et que nos amis de l'école biblique vont rencontrer cette semaine, normalement, c'est la parabole du bon samaritain. Donc j'ai appris hier soir que les jeunes de l'école biblique allaient se pencher sur le bon samaritain, mais j'avais décidé de le lire avec vous auparavant, ça tombe bien, comme quoi l'esprit fait bien les choses. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 29 et suivants. Je vais prendre même verset 25. « Voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée ?» et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela, tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur les bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. » Un lévite de même arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit et il fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Père, merci pour ces trois textes. Ils sont de traditions bien différentes, d'enseignements différents aussi, mais tous nous révèlent quelque chose de ta personne et de la bonne nouvelle. Merci Père pour ces trois textes. Amen. Voilà, on va revenir sur donc ces trois textes, qui sont très très différents les uns des autres, et la question qui se pose évidemment à nous, c'est cette question que Jésus lui-même pose à ses disciples et à Pierre, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Qui est-il ce personnage qu'ils appellent Jésus de Nazareth, de son nom normal, si je puis dire? Qui est-il ce personnage qui est vu chez certains comme Dieu, fils de Dieu, etc. Et donc il y a là, autour de ce personnage du Jésus de l'histoire, d'abord, puisque je la compare, quelque chose qui nous échappe. Et discutant sur ce passage sur cette question avec des catéchumènes. Il y en a une, c'est une fille, il y en a une qui m'a dit Jésus, il est énigmatique. Voilà. Et je trouve que c'est une excellente réponse. Elle n'est peut-être pas très précise, elle ne nous dit pas tout à fait peut-être qui est Jésus, mais dans tous les cas, la réponse est bonne, car je crois que c'est un personnage qui est tout à fait énigmatique, c'est une énigme dans l'histoire, finalement, parce que bien des questions se posent autour de sa personne. Qui est-il au juste? On a peu de renseignements, puisqu'on n'a que les évangiles comme enseignement, quelques logias chez les pères de l'Église, quelques paroles chez les pères de l'Église, l'évangile des Hébreux ou des Ébionites, enfin bon, qui est voisin. Bon, donc on a retrouvé en Antienne à Gamadi, mais très peu de choses. Quant aux évangiles qui sont dits évangiles apocryphes du IIe siècle, ils sont tellement pleins de merveilleux qui n'ont rien à voir finalement avec le Jésus des évangiles. Et donc, au total, ça fait très peu de choses. Or, ce qui est assez curieux, c'est qu'avec si peu de matériel, on ait pu écrire des milliers de livres, vraiment des milliers de livres sur Jésus, des biographies. On va dire régulièrement, chaque génération de théologiens, de pasteurs, de journalistes, d'écrivains, y vont de leur biographie sur Jésus. C'est toujours extrêmement intéressant, extrêmement riche d'ailleurs, du reste, moi j'en ai lu vraiment beaucoup, très différentes les unes des autres, et on en retire toujours quelque chose de positif. Mais il n'y a pas que des livres, il y a des morceaux de musique, regardez toutes les passions qui ont été mises en musique par exemple, et puis des films, aussi avec le 7e art. Mais il est vrai que la question demeure, qui est-il? Voilà. Hein, et alors, les deux textes de Marc que nous avons lus nous renseignent quand même un petit peu là-dessus. Le premier qu'on a lu, c'est Jésus qui se trouve à Nazareth. Et Jésus est homme dans ce texte. Il est vraiment, il est vu comme un être humain à 100%, si je puis dire. Et c'est assez amusant de voir là qu'on nous fait une présentation de sa famille au final. Le père est un peu absent, hein, je veux dire. Peut-être était-il décédé, Joseph, j'en sais rien. Voilà, parce que dans la tradition, on dit que c'était un vieillard, etc. Enfin bref, voilà. Alors, bon, il est absent de tout cela, mais il y a Marie, sa mère, la mère de Jésus, qui y est. Et puis, il y a les frères et sœurs, les garçons qui sont nommés, et ces garçons, ils sont nommés, ils sont répertoriés dans l'histoire. Jacques, qui est le deuxième de la famille après Jésus, qui est l'aîné de la famille, Jacques prendra la tête de la communauté de Jérusalem, on le sait par les actes des apôtres, évidemment, entre autres, et on sait que dans l'histoire ecclésiastique, il a été persécuté et condamné à mort et décapité. Et peut-être pour ça que dans un des textes de l'Apocalypse qu'on a vu jeudi dernier, il est dit que les martyrs sont décapités. Mais c'est vrai que Jacques, qui est un des tout premiers martyrs de l'Église, a fini comme ça. Mais les autres frères, Jude, José, Simon, ont pris successivement la tête de l'Église de Jérusalem. Donc ils sont bien attestés dans l'histoire, ces gens-là. Hein. Il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a les sœurs qui sont mentionnées, mais les pauvres, les demoiselles n'ont pas la chance des garçons, donc elles ne sont pas nommées, mais elles sont plusieurs, il y en a au moins deux. Donc c'est une famille nombreuse qui est là, avec des voisins, il est charpentier, hein, il est mentionné comme étant charpentier, ce qui est une indication intéressante, parce que c'est quelqu'un qui sait lire et écrire, du coup, et on le sait, puisqu'il lit la Bible, l'Ancienne Alliance, enfin l'Écriture, dans les synagogues. Hein, il y a des textes dans l'Évangile qui le disent. Donc on a là Jésus, le Juif, qui est véritablement très humain. Très très humain au final. Et on pourrait dire que tout ce dont je viens de vous parler, eh bien, pourrait s'appliquer à beaucoup d'entre nous finalement. Mais pour d'autres, ben, c'est pas tout à fait le cas. Parce que d'abord, c'est les gens qui sont autour de Jésus, qui le voient comme un des leurs, finalement, se posent quand même quelques questions. Ils ont du mal à le suivre. Mais pour d'autres, il y en a d'autres qui vont dire autour de Jésus, tu es Élie ou un prophète. Ce n'est pas rien non plus. Dire que Jésus est le nouvel Élie ou qu'il a quelque chose de prophétique, c'est aussi quelque chose qui est exact, très vraisemblablement. Beaucoup des Hébreux, des Juifs de l'Antiquité ont dû saisir Jésus comme étant le nouvel Élie dont on attendait le retour sur terre, puisque, vous le savez, Jésus, dans le livre des rois, est enlevé tout vivant au ciel, devant les yeux un peu médusés de son successeur qui s'appelle Élisée. Tout ça se passe au guet de Jéricho, bien sûr. Et donc, on attendait le retour d'Élie à la fin des temps, et certains ont vu Jésus comme étant le nouvel Élie. Élie, c'est un champion du monothéisme et du yahvisme. Hein. C'est le premier des très grands prophètes qui est allé jusqu'au bout de ses forces pour pouvoir défendre le yahvisme, finalement la révélation, et qui peut-être a-t-il sauvé même cette révélation, tellement la lutte a été dure contre les princes païens de Samarie. Et d'autres disent que c'est un prophète. Donc c'est quelqu'un qui, pour ces gens-là, est porteur de la parole de Dieu. Donc quelqu'un d'important, qui a un rôle fondamental finalement, et qui mérite d'être entendu. Pierre, lui, Pierre, il affirme en revanche qu'il dit « tu es le Christ ». Qui étudie le Christ dans l'évangile de Marc, chez Matthieu, à la même question qui lui est posée, Matthieu, l'évangéliste Matthieu retient, tu es le Christ, le Fils du Dieu, Fils de Dieu. Hein, voilà. Et je crois que Luc dit le Messie de Dieu. Et donc, là aussi, c'est intéressant parce que Pierre, et peut-être avec lui d'autres apôtres, voit Jésus comme étant d'essence divine. Finalement. Hein, Christ, c'est curieux, c'est celui qui a été choisi, c'est le Messie, finalement. Donc un personnage vraiment mis à part, et comme le dit Matthieu, non seulement tu es le Christ, tu es vraiment fils de Dieu, tu es vraiment à part, complètement à part dans le monde. Et c'est intéressant que, à la suite de ces révélations, de ces deux textes en particulier, nous puissions appeler le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire à la fois celui qui est l'homme, Jésus, l'homme de Nazareth, un petit village pas loin du bord du lac de Tibériade, à peut-être une dizaine de kilomètres à pied, en gros, 10-15 bornes, mais tu es Jésus-Christ. Non seulement tu es perçu comme le Jésus de l'histoire, mais tu es le Christ de la foi, de la proclamation de la divinité finalement et du messianisme. Les deux étant liés évidemment par ce trait d'union dont je vous dirai un mot. Et je crois que cette appellation Jésus-Christ porte en elle finalement bien des manières de voir Jésus, parce qu'on va osciller tantôt vers Jésus et tantôt vers Christ. Alors Jésus, comment apparaît-il en fait? J'ai lu un livre d'Alphonse Maillot là cette semaine, un pasteur théologien qui est décédé il y a maintenant une vingtaine d'années en gros. Pour lui, Jésus c'est d'abord le prédicateur. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord, on a dans les évangiles le reflet de la prédication de Jésus. Il est prédicateur et il raconte des paraboles, mais il a une prédication qui est sulfureuse presque, je dirais, parce que elle annonce un monde nouveau dans lequel les valeurs humaines seront mises cul par-dessus tête, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire que là où les gens se croient les premiers, ben en fait, ils sont pas du tout les premiers. Je dirais, là où il y a des gens qui sont écrasés par les autres, eh bien, ceux-là ont de la dignité, ils comptent vraiment et ils font partie des premiers. Donc c'est vraiment une prédication un peu révolutionnaire que nous présente Jésus en nous parlant du royaume. Et puis il parle par parabole aussi, évidemment, ces fameuses petites parts qui sont extrêmement importantes. Elles ont été conçues pour être entendues et retenues facilement, de telle sorte qu'on puisse les rapporter à d'autres et les transmettre. Ce qui a été fait, Jésus est un maître des paraboles, il y avait des rabbins à l'époque aussi qui prêchaient avec des paraboles, dans l'Antiquité aussi, un homme comme Ézéchiel a raconté des paraboles aussi. Bien sûr, mais Jésus a porté ce style très très haut, et ça lui permet, à travers ces images imagées et qui parlent facilement aux gens, de faire passer ses idées du royaume qui est là, présent, dans lequel tout un chacun a sa place. Et puis, Jésus est guérisseur. Alors là, on le sait évidemment, et on aime tous beaucoup cet aspect du Jésus guérisseur. Et c'est important, parce que en guérissant les gens, Jésus lève les malédictions. Les malades, les maladies, les catastrophes, elles étaient réputées être envoyées par Dieu pour punir les hommes qui étaient blessés à ce moment-là. Les aveugles, bon, bah, c'est que ils avaient fait une bêtise, enfin voilà, ou que leurs parents avaient fait une bêtise, qu'on a vu hier, je crois, dans notre étude qu'on a eue hier matin, mais voilà, ou les paralysés, ou les malades, et ainsi de suite. Donc, on pensait que tout ça était envoyé par Dieu. Lorsque Jésus guérit les gens, ça veut dire qu'il lève les malédictions. Le problème, c'est que seul Dieu peut le faire. Et que devant toutes ces guérisons, au lieu certains, les grands prêtres, en particulier les Sadducéens, toute cette partie de la population qui avait le pouvoir, en fait, au lieu de s'émerveiller, eh bien, sont parfois révoltés, je veux dire, contre Jésus. Vous voyez que là, ces prédications, ces paraboles, ces guérisons qui caractérisent la personne de Jésus, qui est-il? Il est prédicateur. Qui est-il? Il est guérisseur. Tout cela apporte un plus. Un plus, ça aussi, c'est quelque chose qui frappe les jeunes. Quand j'aurais posé cette question, beaucoup m'ont dit, ben, il apporte quelque chose de plus aux gens. Sans trop savoir vraiment ce que c'est vrai que savoir qu'est-ce qu'il apporte. En plus, de l'espérance peut-être, de la dignité, voilà. Et visiblement, Jésus est attaché à aider les gens et à les rendre meilleurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Pour répondre à la question, qui dites-vous que je suis? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, il y a cette caractéristique, tu es celui qui aide les gens à être meilleurs, finalement, à avoir un plus. Et puis aussi, je crois que c'est l'homme du pardon. C'est l'homme du pardon, comme on l'a vu au Vendredi Saint. C'est l'homme qui va pardonner, mais qui veut pardonner finalement? Et là aussi, notre pardon humain, il est à l'échelle humaine, hein, évidemment. Dieu, lui, pardonne. Et il pardonne de manière pleine, c'est en plénitude, si je puis dire. Et Jésus qui apparaît comme l'homme du pardon, même si parfois il a le verbe haut, hein, ça l'un n'exclut pas l'autre, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'il met plutôt du côté de Dieu et qui a dû, là aussi, peut-être scandaliser certains. Vous voyez, donc Jésus, c'est un personnage qui fait remuer les foules, qui fait poser question, et qui est vraiment un peu énigmatique finalement. Bon, certainement est-il un maître, un rabbin, une sorte de rabbin de l'époque. On sait par des témoignages de l'époque qu'il y avait des prédicateurs et rabbins qui étaient comme Jésus. Dire est-il sauveur du monde? Peut-être. Les titres messianiques autour de Jésus ne manquent pas. Il y en a plusieurs dizaines dans le Nouveau Testament. On pourrait s'amuser à les rechercher. Ça ferait une belle collection. On y passerait du temps, certainement. Mais dans tous les cas, il est parole. Il est sûrement une parole. Quelqu'un de la rencontre, quelqu'un de la vie finalement. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel. Jésus rencontre les gens et il leur parle. Voilà, alors autour du prédicateur guérisseur qui est Jésus, il y a toute cette foule de titres qui sont là dans les évangiles pour dire Jésus. Et c'est peut-être ce qui nous éclaire sur cette personne de Jésus, c'est qu'il est peut-être trop grand pour nous, pour qu'on puisse le définir avec un seul mot. Hein, qui dites-vous que je suis? Bah, tu es un tel, tu es comme ci, tu es comme ça. Bah, ce sera toujours insuffisant parce qu'on ne peut pas enfermer Jésus dans une définition, fût-elle formidable, hein, incontestablement. Que Jésus n'est pas de l'homme d'une définition, il est l'homme d'une parole et d'une rencontre. Alors, qui dites-vous que je suis? Selon les réponses que nous donnons, cela va nous engager, sûrement combler nos espérances et dynamiser. Si nous disons que Jésus, c'est le guérisseur, dans une période comme la nôtre, je crois que c'est quelque chose d'important. Eh bien, si Jésus vient vers nous pour nous apporter la guérison, une parole qui va nous guérir, je crois que lorsqu'on est dans la souffrance, dans la maladie, c'est quelque chose qui peut nous dynamiser, peut-être nous redresser et contribuer certainement à nous guérir. Hein, les psychologues le savent bien, cela. Et les médecins aussi, ils savent très bien que lorsque les malades ont un bon moral, ils guérissent mieux que s'ils se laissent aller au désespoir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de saisir. Hein, la réponse que nous allons donner à la question « Qui dites-vous je suis ?» est une question qui va nous engager et combler peut-être nos espérances. En fait, Dieu est souvent vu tel que nous l'espérons, et je crois que c'est intéressant parce que c'est ainsi qu'on va le recevoir et qu'il va nous parler et nous bousculer aussi, ce que je disais. Parce que nous espérons à Jésus de telle ou telle manière, qui va nous correspondre à nos manques, à nos angoisses, à nos peurs, ou que sais-je encore, eh bien, on aura sans doute une parole qui viendra nous toucher peut-être plus facilement, nous toucher ou nous renverser peut-être, nous changer, nous convertir, nous retourner, si je puis dire, d'une certaine manière, pour prendre une autre route. Alors dans l'histoire, c'est intéressant, si individuellement Jésus est perçu d'une manière très très personnelle finalement dans nos histoires, mais dans l'histoire en général, Jésus change de village, c'est assez amusant, et en géographie aussi. En Afrique, Jésus est parfois représenté en noir africain. Je veux dire, c'est assez génial. Il est souvent représenté en asiatique, en Asie. Aussi, voilà, au moment de la peste, en 1348, après la peste, Jésus était représenté toujours souffrant, représenté à Jésus souffrant, évidemment, puisque les gens tombaient comme des mouches et avec des souffrances épouvantables. Donc on a, c'est le moment des transits, c'est le moment des mises au tombeau, des Pietà, etc. Enfin bref, des représentations catastrophiques de la croix, du calvaire. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est de voir que Jésus évolue dans des habits de l'époque du peintre. Jésus au Moyen-Âge, il est habillé avec des habits du Moyen-Âge. C'est-à-dire que on s'approprie Jésus, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. La distance qu'il y a entre Dieu ou Jésus et nous ne compte plus finalement. Hein, mais on peut véritablement se le représenter, et ben, comme on est finalement, comme c'est vraiment un frère, ni plus ni moins. Hein. Alors Jésus, il a évolué dans l'histoire, il a été doux à la Renan, si je puis dire, hein, au 19e siècle, doux Jésus. C'était le révolutionnaire dans les années 60 avec le Che Guevara, vous savez. Donc, je m'en souviens un petit peu, là, il était au service des théologiens de la Révolution. C'est une belle théologie, d'ailleurs, pleine d'espérance pour les peuples opprimés. Hein. Et donc on avait un Jésus là, très très révolutionnaire. Puis Jésus a été féministe avec la Samaritaine, Marie-Madeleine, les sœurs de Lazare, etc., la sœur phénicienne ou la femme adultère. Et on a vu un Jésus essénien aussi après 1945. Vous savez, quand on a découvert les manuscrits de la Mer Morte et on a vu qu'ils appartenaient à une sorte de secte de moines qui vivaient au bord de la Mer Morte, beaucoup ont dit Jésus, il a été essénien ou il est essénien, etc. A priori, non, ça a été abandonné, mais voilà. Hein, Jésus a été superstar dans les années 70 aussi, là, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, hein, un Jésus un peu baba cool, voilà, un peu beatnik, etc. Sans compter sur les films d'Hollywood et autres, où Jésus est parfois vu comme un Rambo avec une Marie-Madeleine top modèle, comme je disais hier. Et je pensais à Monica Bellucci, qui est quand même une Marie-Madeleine un peu surprenante, je veux dire, fort jolie, certes, mais je ne sais pas si elle colle à la réalité historique. Mais enfin, bon, chacun a les représentations qu'il veut, et c'est ça qui est intéressant, au final. C'est intéressant, et ça fait partie de la grâce, parce que la multiplicité des réponses à la question de Jésus nous préserve de l'idolâtrie des intégrismes. Et ça, je crois que c'est important. Hein, ça nous préserve aussi des certitudes qui ferment le débat. Et il y a une grande richesse qui s'exprime là, dans cette diversité de manières de saisir Jésus, de traduire sa personne, je dirais. Cette richesse, celle de Jésus-Christ, évidemment, Jésus le Christ, Jésus-Christ. Serait-il Dieu lui-même ou divin, eh bien, on risque de le couper de son humanité et on risque d'avoir un Jésus inaccessible, finalement, hein, qui nécessiterait le besoin de remettre des intermédiaires entre lui et nous. Et ça, je crois que ce serait extrêmement dommage. Non, non, il n'est pas Dieu, il n'est pas inaccessible, etc. Serait-il alors seulement humain? Mais s'il est seulement un homme parmi les autres, on risque d'affadir terriblement son message. On risque de ramener Jésus à un sage, ce qu'il était vraisemblablement, peut-être, voilà, mais pas plus, ou un grand rabbin, mais pas plus. Hein, donc là aussi, il faut faire attention de ne pas l'enfermer dans une définition unique, et le fait de la multiplicité des réponses est intéressante. C'est-à-dire ne pas le couper de son humanité, ne pas le couper de son aspect divin aussi. Alors évidemment, il reste indéfinissable, un peu énigmatique, mais surtout, il reste l'homme de la rencontre, celui qui vient vers le monde, finalement, hein, comme le Fils de l'homme, hein, qui descend des nuées du ciel et qui vient vers le monde. Qui vient vers le monde. Quel est mon prochain? Demande Jésus au genésiste, là, qui lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Hein, il dit, le prochain, c'est celui qui vient vers le malade, c'est celui qui vient vers nous lorsque nous en avons besoin. Hein? Et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que Jésus, c'est celui qui vient vers le monde et qui vient vers nous et qui se laisse véritablement approcher et saisir. Il apporte une parole qui va faire vivre. Il est Jésus-Christ comme si le trait d'union qu'il y a entre Jésus et Christ, qui est moderne, parce que le trait d'union n'existait pas dans l'Antiquité, je vous le rappelle, hein, comme si le trait d'union nous interdisait l'un ou l'autre de ces deux titres, mais nous permettait en fait d'osciller entre les deux. Voilà. Et c'est cette plasticité, je crois, hein, de la personne de Jésus qui nous permet de le rencontrer avec nos problèmes, nos souffrances et nos questions et nos doutes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours les mêmes de l'un à l'autre parmi nous. Ainsi, parmi les auditeurs, là, les uns les autres, disons, ben voilà, moi, mon problème, c'est ça, etc. Hein, si nous sommes, je ne sais pas, moi, 30 ou 40 auditeurs, eh bien, on aurait peut-être une vingtaine de réponses différentes, dire, hein, et qui correspondraient à une porte d'entrée, je dirais, pour saisir la personne de Jésus, dont on dira un mot à ce moment-là. Dire, hein, c'est un signe de la grâce, incontestablement. Dire, que cette plasticité, que cette variété d'appellation de Jésus et la manière dont on va exprimer notre foi, évidemment, et la vivre. La vérité autour du Christ, la vérité unique, hein, avec un V majuscule, si je puis dire, elle échappe. On voudrait des signes, évidemment, hein, comme le demandent certains. Hein, quel signe tu nous donnes? Finalement, tu le présentes un peu comme d'essence divine, de Dieu, fils de Dieu, etc. Mais quel est ton signe? Hein, comme si on attendait une sorte de magie de la part de Dieu ou de Jésus qui puisse résoudre tous les problèmes. Mais non. Non, non, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Hein, c'est une parole qui nous touche, hein, et qui peut laisser les autres indifférents. Hein. En Jésus, Dieu nous parle. Il nous parle de manière, je crois, tout à fait personnelle. Et c'est ça qui est peut-être la bonne nouvelle. C'est que on a un rapport à Dieu par cette plasticité de la perception de Jésus, hein, qui devient personnelle véritablement, qui nous concerne au fin fond de nos vies. Et cette parole de Dieu, elle est dans notre langage, dans notre mentalité, dans notre espoir et dans notre joie. Qui suis-je pour vous? Qui dites-vous que je suis? Hein? C'est celui qui nous accompagne et nous fait vivre au final d'un essentiel qui est l'espérance en la vie, de manière très personnelle et très secrète aussi. Évidemment, il y a des paroissiens, moi, en tant que pasteur, qui me parlent de leurs problèmes théologiques, dogmatiques, leur cas de conscience, mais d'autres, pas du tout. Je veux dire, ça reste secret, c'est leur, je dirais, jardin secret, leur dialogue avec Dieu qui les concerne, eux, et puis voilà. Jésus, c'est celui qui est présent tout particulièrement dans nos vies, qui est présent, je dirais, aujourd'hui, particulièrement auprès des angoissés, des éprouvés, des malades et des exclus, de tous ceux qui ont besoin d'un plus, de ce plus dont on parlait tout à l'heure, pour aller plus loin sur leur route. Je crois que fondamentalement, ce Jésus, c'est le Christ de la parabole. Dire, c'est le Christ de la parabole qui est à la fois le blessé sur le bord de la route. Voilà, et qui est participant de nos souffrances, aussi, abandonné, seul, incompris, avec une barrière parfois entre lui et les autres, le prêtre et le lévite qui passent sur la route, eh bien, sont tenus par la loi de ne pas toucher à un malade du sang ou un mort, sans quoi ils deviennent impurs, donc ils sont coincés. d'une certaine manière, c'est pas des sales types, c'est pas des peureux, hein, c'est pas des gens qui sont un peu hautains en disant je suis prêtre, quoi, donc moi je fais pas ceci ou cela, pas du tout. Ils sont coincés par la loi, complètement coincés. S'ils touchent ce malade, ils ne peuvent plus assumer le service au temple. Donc c'est un cas de conscience terrible pour eux. Voilà. Hein, et donc il y a une barrière qui crée la solitude entre cet homme qui a été roué de coups, volé, laissé pour mort, voilà, et le reste du monde, là, un petit peu. Et puis arrive ce Samaritain. Arrive ce Samaritain. C'est une autre personne de Jésus. Il y a une sorte de miroir, là, où il y a un face-à-face entre deux images de Jésus. C'est celui qui vient vers et qui va sauver. Celui qui vient vers et qui va sauver et qui laisse finalement le monde avec cette espérance de soins, de prise en compte, de dignité. L'aubergiste, on lui fait confiance, et l'aubergiste fait confiance au Samaritain, et ainsi de suite, et Dieu reviendra. Il reviendra pour voir, il n'abandonne pas, il ne laisse pas complètement tomber. Et je trouve que cette parabole est tout à fait intéressante. Elle a plusieurs visages de Jésus, et cette multiplicité de facettes qu'il y a dans cette parabole, je crois, fait la richesse précisément de cette parabole. Qu'on soit celui qui sauve, qui aide les autres, qu'on soit malade, abandonné, peut-être prêt de mourir, eh bien, il est là. Il est là. Il est là présent. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Il sauve, il comprend, il souffre, il n'abandonne jamais, il fait confiance. Alors je dirais qu'aujourd'hui, comment on pourrait définir Jésus finalement? Qui dites-vous que je suis? En écrivant ces mots, cette prédication, je finissais par ceci. Il est François d'Assise. Qui s'occupe des pauvres, des animaux, etc. Il est Saint Vincent de Paul, qui au XVIIe siècle, a créé les filles de la charité, enfin un certain nombre d'ordres comme ça, pour sauver les malheureux et en particulier les enfants qui étaient abandonnés. Il est Sœur Teresa de Calcutta. Il est Martin Luther King. Il est sans doute une infirmière. Il est sans doute un geste de compassion. Il est certainement une parole d'amour aussi. Et je crois que finalement, quand Jésus pose la question « Qui dites-vous que je suis? » et moi je dirais « Il est peut-être un peu chacun de nous, il est en nous. » Et je crois que dans le regard des frères et des sœurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance, il y a toujours, toujours quelque chose du regard de ce Jésus-Christ qui est le Sauveur, qui est celui qui vient vers, qui est celui qui fait vivre. Amen. Thank you. Voilà, je vous invite, après ce morceau méditatif de lutte, je vous invite à avoir un moment de prière. Et dans ce moment de prière, pensez à Franco Milia et à sa famille. Donc, ça concerne la famille d'Imier, de la paroisse. C'est un monsieur qui est âgé. Et en ce moment même, a lieu son incinération au cimetière du Père-Lachaise. Il est mort du corona, de la pandémie d'aujourd'hui. Mais évidemment, à travers Monsieur Franco Milia, il y a bien d'autres personnes, évidemment, auxquelles on pense, ça va de soi. Pensez à Madeleine Hilde aussi, que certains d'entre vous connaissent, une dame âgée qui est assez formidable et qui, voilà, bon, je l'ai eu au téléphone hier, elle n'est pas trop mal, mais elle est quand même très très fatiguée. Elle était très heureuse de savoir que ça mentionnerait dans la prière d'intercession. Voilà, donc elle est à la Fondation Lambrecht, pas très loin de chez nous. Et puis, avec ces personnes âgées là qui sont coincées dans leur maison de retraite, je voulais penser aussi tout particulièrement en ce moment aux musulmans qui vivent le Ramadan, hein, qui ça a commencé il y a 3 jours, si je ne me trompe, et qui sont très contrariés parce que évidemment ils peuvent pas se réunir le soir, et donc ils sont bien embêtés, ils peuvent pas non plus aller dans les mosquées pour prier. Donc je pense qu'on veut penser à eux parce que si on se remémore un petit peu, si on vient un petit peu un mois en arrière, on n'a pas pu fêter Pâques comme on aurait voulu le fêter. Donc ils sont un peu dans la même situation que nous finalement. Voilà. Mais les uns les autres, vous avez dans vos prières certainement bien des gens et des situations auxquelles vous pensez, ça va de soi. C'est en se mettant ensemble qu'on arrive à faire quelque chose d'à peu près complet autant que faire se peut. Voilà. Donc je vous invite à avoir ce moment de prière. Père, depuis l'origine, les humains se sont tournés vers toi pour dire leur détresse face à l'incompréhensible. Mais les psaumes de détresse témoignent toujours de ta fidélité et de ta compassion. Père, dans le prolongement de ces méditations de la Bible, dont nous avons le témoignage, nous te disons nos questions, nos angoisses et nos peurs. Et surtout, nous pensons à ceux qui sont frappés dans leur vie par la pandémie actuelle, mais aussi par quelque autre malheur. Tu es pour nous le bon samaritain, et aussi celui qui souffre avec les blessés de la vie. Nous avons nommé Franco Milia et Madeleine Hilde, mais combien sont-ils tous les autres? En particulier les travailleurs immigrés qui ont laissé leur famille au pays, qui ont peu de nouvelles et quelquefois de mauvaises nouvelles, et qui ne peuvent absolument rien faire. Nous avons parlé des musulmans contrariés dans leurs fêtes, et comme nous l'avons été, mais ils sont combien à sauter, se retrouver, fêter ton nom, chanter ensemble des psaumes, et qui ne peuvent rien faire. Mais il y a l'espérance, Père. L'écoute de ta parole, des gestes qui soulagent et qui sauvent, de l'amour partagé, autant de lumières qui brillent et qui nous permettent de te remettre notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Chers amis, je pense que dans le regard du Christ, dans l'iris de sa pupille, il y a tous les visages du monde. Et dans l'iris de chacune et chacun d'entre nous, il y a le visage du Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons bénir Dieu. Bénir Dieu pour sa présence au sein même de notre être, au sein même du monde. Parce que c'est une présence qui est positive, qui donne du sens, qui donne de l'espérance et du courage d'être, qui donne de la dignité. Et nous pouvons recevoir la bénédiction de la part de Dieu, Elle a été transmise, cette bénédiction, par les paroles des prophètes et par les paroles de Jésus-Christ, qu'il soit le Fils de Dieu, l'homme de Nazareth, le rabbin ou le guérisseur, peu importe. Mais la bénédiction de Dieu est là, elle est là. Elle passe le temps et l'espace, elle passe les siècles pour nous atteindre les uns et les autres. Soyez bénis de Dieu. Allez en paix dans sa lumière. Allez en paix avec sa parole. Allez en paix en sa présence, cette présence qui est au cœur de votre vie. Amen. Chers amis, avant d'entendre le Golden Gate Quartet, qui nous chantera donc un Negro Spiritual, ce qui est une prière évidemment, je vous invite à rester à l'antenne après pour deux ou trois annonces. À toi Antoine.
Alors je vous mets les paroles pour ceux qui ont la vidéo. C'est à propos de la guérison de Bartimée.
De Bartimée. Well, it's so blind Barnabas stood on the way. Blind Barnabas stood on the way. Well, oh, blind Barnabas stood on the way. Crying, oh, Lord, they have mercy on me. But, oh, blind Barnabas stood on the way. Blind Barnabas stood on the way. Well, oh, blind Barnabas stood on the way. Crying, oh, Lord, they have mercy on me. In my God's Bible, in the book of James, Christ was healing the crippled and lame, giving the poor and needed bread, healing the sick and raising the dead. But tell me, when he passed through Galilee, he passed by a man who could not see. The man was blind and crippled from birth. They tell me that his name was Blind Barnabas, but old Blind Barnabas stood on the way. Blind Barnabas stood on the way. Oh, Blind Barnabas stood on the way, crying, oh Lord, they have mercy on me. But oh, Blind Barnabas stood on the way. Blind Barnabas stood on the way. Oh, Blind Barnabas stood on the way, crying, oh Lord, they have mercy on me. When Barnabas heard that my Lord was nigh, he fell on his knees and began to cry. Oh, thy son of Galilee, great God Almighty, have mercy on me. Crying, oh Lord, son of David, oh Lord, son of man, oh Lord, Mary's baby, my good Lord, is the bleeding lamb, oh Lord, son of David, hey Lord, is the son of man, oh Lord, Mary's baby, well, well, Lord, is the bleeding lamb. Well, the tender Christ stopped and he looked around, saw blind Barnabas on the ground. He touched his eyes with the palm of his hand, and the Barnabas saw like a natural man, crying, oh, blind Barnabas stood on the way. Blind Barnabas stood on the way. Oh, blind Barnabas stood on the way, crying, oh, Lord, have mercy on me. Voilà, Bartimée, le fils de l'impureté qui a été, c'est son nom, hein, fils d'impureté, Bartimée, qui a été guéri. Donc la malédiction de l'impureté a été levée par Jésus. Et vous voyez, ça correspond un petit peu à ce qu'on a dit sur ce personnage énigmatique qui est Jésus, guérisseur, qui pardonne, qui lève les malédictions, et ainsi de suite. Voilà, formidable. écoutez, je vous donne quelques informations. Là, mardi prochain, à 20h, le conseil presbytéral se réunit, comme ça, bon, c'est intéressant, parce qu'on essaye d'être en contact les uns avec les autres pour échanger nos nouvelles et, bon, prendre des nouvelles. Nouvelle de la paroisse aussi, et ça, je crois que c'est fondamental que vous soyez au courant que ce conseil de cette paroisse vous suit, évidemment. Voilà. Ce matin, normalement, a été communiqué aux enfants des écoles bibliques, hein, deux ou trois petites choses sur le bon samaritain, voilà, parce que le caté devait reprendre aujourd'hui, normalement. Voilà. Les enfants, les adolescents eux-mêmes sont toujours sur les évangiles avec moi, bien sûr. Et puis samedi prochain, à 10h30, comme on l'a décidé au dernier conseil, qu'on ferait tous les samedis un thème biblique, Eh bien, donc hier, c'était les vendeurs chassés du temple, c'est un texte extrêmement important, et on va voir un autre texte, une autre série de textes, si vous préférez, c'est la multiplication des pains. Je dis une autre série de textes, hein, parce qu'il y a 6 ou 7 multiplications des pains dans les évangiles, il y a aussi une multiplication des pains dans le livre d'Élie et d'Élisée, donc voilà, c'est quelque chose qui est important, donc on verra ça samedi prochain à 10h30. N'oubliez pas notre trésorière, il ne faut pas qu'elle passe des nuits blanches, ayez pitié d'elle, donc faites ce qu'il faut. Voilà. Que dire de plus, sinon de vous souhaiter un très bon dimanche sous le soleil, il y a plein de fleurs partout, je crois que c'est ça qu'il faut savoir regarder aussi, parce que c'est une bénédiction aussi, espérer que tout le monde puisse aller bien autour de nous, bien évidemment, voilà, et passer une très très bonne semaine, j'espère qu'on se retrouvera les uns et les autres, soit mardi, soit samedi, soit dimanche. Voilà, à très bientôt. Merci de votre présence et merci de symboliser par votre présence, je dirais invisible, ce que peut être la vraie Église qui n'est pas toujours visible dans ses contours, mais qui n'en est pas moins existence et réelle. À très bientôt.